Comment classique, le podcast avec Julien Vautier et Sylvain Perret.
Puisque vous vouliez savoir ce que je pense aujourd'hui du cinématographe, je dois à la vérité dire que je m'amuse comme un fou. Sacha Guitry. S'amuser, c'est le terme. L'amusement comme moteur ou une certaine philosophie du plaisir. C'est certainement elle qui est au cœur de l'œuvre de Sacha Guitry. Né au théâtre, devenu cinéaste presque malgré lui à 50 ans, il est un auteur adoré par certains, haï par d'autres, mais au nom connu de tous. Presque statufié aujourd'hui. Comme un camouflet pour cet homme qui aimait rien moins que le mouvement, la spontanéité du geste et du verbe à l'opposé de la permanence des choses. Un homme qui assume l'artifice et qui n'aura eu de cesse de reprendre à son compte le célèbre monologue de Shakespeare. Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Et la vie de Sacha Guitry, comme son œuvre, fut dense et mouvementée. Son travail de metteur en scène, son rapport avec les acteurs, celui avec les femmes, marié 5 fois. L'époque trouble de l'occupation et sa révérence pour le passé et l'histoire de France. C'est un peu tout cela que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui avec nos invités.
Une grosse rétrospective à La Rochelle du 30 juin au 9 juillet, suivie d'un premier cycle de 7 films réédités en salle cet automne par les Acacias, nous a donné envie de revenir sur l'œuvre de Guitry qui nous semble nécessaire de redécouvrir, voire de découvrir. En effet, ne connaît-on pas plus le nom de Guitry que son œuvre aujourd'hui? Pour en discuter, nous sommes avec Sophie Mirouz, directrice générale déléguée du Festival La Rochelle. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Nicolas Parizère, cinéaste, réalisateur de Le Grand Jeu, Alice et le Maire, Le Parfum Vert et grand amateur de Guitry. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et Jean-Fabrice Janodi, programmateur aux Acacias, grand cinéphile et grand amateur de Guitry et qui, il va nous l'expliquer, a prévu une nouvelle exploitation à l'automne de plusieurs films de Guitry. Bonjour Jean-Fabrice.
Bonjour.
Pour commencer, peut-être une question pour Sophie. Pourquoi une rétrospective consacrée à Sacha Guitry cette année à La Rochelle?
Et bien parce que comme vous le disiez très justement, je pense que Sacha Guitry est un peu... oublié, en tout cas, en effet, on connaît tous et toutes son nom, mais peut-être moins son œuvre. En tout cas, c'était mon cas. J'avoue que voilà, malgré ma cinéphilie que j'ai construite au fil des ans au Festival de La Rochelle, puisque j'y travaille depuis 20 ans aujourd'hui, c'était un des cinéastes qui manquait un peu à ma cinéphilie. J'ai découvert, je pense, quand j'étais étudiante, des extraits de ses films, mais c'est vrai que je les connaissais pas beaucoup. Et j'avais l'image, comme beaucoup, je pense, d'un personnage un peu poussiéreux, d'un cinéma un peu bourgeois. Et je me suis régalée à préparer cette rétrospective, et donc en collaboration avec les Acacias. Mais ça, on va y revenir. Donc voilà, l'idée, évidemment, c'est le rôle du Festival de cinéma, c'est de faire redécouvrir ou découvrir des auteurs qui ont marqué l'histoire du cinéma français ou international. Et le Festival à Rochelle est vraiment très connu pour ses rétrospectives qui attirent des spectateurs venus de toute la France.
Et donc vous avez inclus plusieurs personnalités du cinéma, que ce soit des cinéphiles professionnels ou même des cinéastes comme Nicolas. Comment vous avez choisi d'inclure ces gens-là en général et Nicolas Parizère en particulier?
Alors l'idée au Festival de La Rochelle depuis quelques années, depuis qu'on a fait une rétrospective autour de Bergman, c'était justement d'accompagner ces rétrospectives. Là aussi, hein, c'est le rôle des festivals de cinéma, de proposer un accompagnement des films. Donc Bergman, Pasolini l'an dernier, qui sont quand même des cinéastes qui ont des œuvres vraiment imposantes, un peu écrasantes parfois pour les jeunes générations. On a souhaité accompagner donc ces rétrospectives d'un parcours. Donc cette année, ce sera le parcours Guitry, avec l'idée donc chaque jour d'un accompagnement, d'une conférence par un amoureux du cinéaste, un spécialiste. Et je savais de par ces posts sur les réseaux sociaux que Nicolas qu'on avait accueilli par ailleurs pour Alice et le Maire à La Rochelle, était un grand fan de Sacha Guitry. Et on se disait que c'était bien aussi d'avoir des cinéastes pour parler de ce grand réalisateur qu'est Sacha Guitry. Voilà, donc c'est parti voilà, de Nicolas, à qui on a confié aussi le texte. Il nous a écrit un très beau texte pour le catalogue du festival. Et puis, évidemment, on a aussi pensé à des femmes. Je pense qu'on reviendra aussi sur la relation de Sacha Guitry aux femmes. Donc ça nous semblait important de faire accompagner les films par Axel Roper ou Charline Bourgeois-Taquet, par exemple, pour parler uniquement des cinéastes, mais aussi des critiques. Il y a des incontournables. Noël Herp est un grand spécialiste de Sacha Guitry, Charles Tesson aussi. Et puis quand on a annoncé via une newsletter cette rétrospective, on a été contacté par des critiques qui souhaitaient participer à ce parcours, comme Raphaël Pirer, qui travaille au Cahier du cinéma, qui souhaitait beaucoup accompagner Faisons un rêve. Donc voilà, ça s'est construit comme ça. Malheureusement, on n'a pas pu accueillir tout le monde, parce que voilà, il y a 9 conférences, 9 jours de festival dans 9 conférences, mais on se réjouit de tous les écouter.
Alors justement, Nicolas, quand vous avez été contacté, quelle était votre réaction et quel est votre rapport aussi au cinéma de Sacha Guitry?
Bah d'abord, j'étais très très heureux d'être invité à La Rochelle pour parler de Guitry, qui est un cinéaste que j'aime énormément et qui a été très important pour moi, en tout cas au début de ma cinéphilie, c'est-à-dire que j'avais vu le roman d'un tricheur quand j'étais enfant. À 11 ou 12 ans, ça m'avait plu, mais disons, dans mon adolescence, je considérais qu'il était plus urgent de voir tout Kubrick ou tout Bergman ou tout Romer, je sais pas, que de voir Guitry qui avait, à ma connaissance, une réputation moyenne, voire mauvaise. Et j'avais dû voir Si Versailles m'était compté à 14 ou 15 ans, et ça m'avait pas mal barbé. Et il se trouve que, quand je suis arrivé à Paris, il y a eu une rétrospective Sacha Guitry au Reflet Médicis. Je pense que c'était plutôt ses films des années 30. Et je suis allé voir Mon père avait raison. Et il se trouve que j'allais voir 2, 3, 4 films par jour à l'époque, en salle, et j'ai vu le même jour Mon père avait raison et Sonate d'automne de Ingmar Bergman, qui ont des thèmes assez proches. Disons, dans Mon père avait raison, c'est le rapport père-fils, et dans Sonate d'automne, le rapport mère-fille. Et alors que je m'attendais à trouver le Guitry un peu ridicule, ou en tout cas folklorique, disons, et le Bergman profond et sublime, et en fait, il s'est passé exactement l'inverse, c'est-à-dire que j'ai trouvé le Bergman ennuyeux, académique, plombant, déprimant, enfin vraiment tout ce que je n'aimais pas dans le cinéma, en tout cas à l'époque. Je tiens à dire que je suis revenu à Bergman plus tard et que c'est un cinéaste que maintenant j'apprécie beaucoup. Mais enfin, disons, à l'époque, vraiment, Sonate d'automne a fait vraiment office de repoussoir. Et puis, je suis tombé vraiment amoureux du cinéma de Sacha Guitry. Et ce qui m'a étonné, et puis j'en finirai là parce que je suis peut-être un peu long, ce qui m'a étonné quand j'ai vu Mon père avait raison, c'est pas l'écriture brillante, bon, ça je m'en doutais, ni le côté réjouissant de l'acteur Guitry, mais véritablement la mise en scène. C'est-à-dire que je trouvais que, en termes de mise en scène pure, pour ce que ça veut dire, en tout cas, Guitry était un bien plus grand cinéaste que Bergman. Ce que je pense toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que, mais voilà, ce qui m'a étonné dans Mon père avait raison, c'était à quel point c'était brillamment découpé, filmé. Depuis, j'ai toujours adoré Sacha Guitry. Et à un moment donné, pas longtemps après, il y a eu une intégrale Sacha Guitry à la Cinémathèque où j'ai vu tous ses films. Et Guitry est donc un des premiers, peut-être avec Renoir, dont j'ai pu voir vraiment tous les films en un ou deux mois lors de cette rétrospective. Et c'est toujours des moments... les rétrospectives intégrales, c'est toujours des moments très particuliers pour s'intéresser à metteur en scène.
Alors Jean-Fabrice Janody, vous allez ressortir donc les films cet automne. Comment vous avez découvert le cinéma de Guitry et qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette idée de ressortie?
Alors moi j'ai découvert Guitry enfant et adolescent, je crois qu'avec Nicolas on doit avoir à peu près le même âge, donc c'est grâce à Patrick Brion qui avait passé beaucoup de films de Sacha Guitry, et puis aussi les jours fériés on avait droit régulièrement à Si Versailles m'était compté, enfin toutes les fantaisies historiques. Et c'est vrai que moi les films, le cinéma en général, je l'ai découvert en solitaire et sans lire quoi que ce soit sur le cinéma, donc j'étais vraiment sans concept, donc j'ai vraiment pris les films tels quels jusqu'à l'âge de 18 ans, et je sais pas pourquoi, mais la langue, la mise en scène, enfin tout m'emportait dans le cinéma de Sacha Guitry déjà à cette époque là après, moi j'ai programmé Le Reflet Médicis de 2000 à 2008, et un de mes grands regrets, c'est pendant cette période-là, de ne pas avoir fait justement de ne pas avoir monté de rétrospective Sacha Guitry. On en avait passé quelques-uns dans un cycle sous le cinéma français sous l'occupation, également dans un cycle sur l'âge d'or du cinéma français qui qui portait sur la période 35-39. Voilà, mais j'avais tout ça en tête depuis très longtemps. Mais j'attendais l'opportunité vraiment de pouvoir travailler sur Sacha Guitry. Alors c'est vrai que comme nous, on gère le catalogue des films d'Ariane, TF1 Studio. Lorsque Pierre-Olivier de TF1 Studio m'a dit qu'il mettait en restauration Le Diable Boiteux, le comédien, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de faire cette première rétrospective. Et c'est là que j'ai contacté Gaumont, Jérôme Soulet, qui a accueilli le projet avec beaucoup de bonheur. Et c'est vrai qu'avec Sophie du Festival de La Rochelle, on en parlait déjà depuis quelques années. Hein. Sophie, tu me confirmeras ça fait au moins 2-3 ans, voire plus qu'on en parle.
Absolument, oui. Ouais.
En attendant la bonne occasion, quoi. Voilà. Et puis, j'avais cette impression en fait, il s'était passé pas grand chose en fait autour de Sacha Guitry, contrairement à d'autres cinéastes français, depuis 25-30 ans. Donc voilà, il fallait absolument. Enfin, moi je considère vraiment que c'est un des plus grands réalisateurs français, surtout sur la période des années 30. Je pense que Renoir et Guitry sont dans cette première décennie de loin le plus grand réalisateur français. Et je me disais qu'il fallait vraiment faire quelque chose autour de son travail, quoi.
Alors c'est intéressant parce que vous avez tous les deux évoqué son travail de mise en scène et de cinéaste, et c'est vrai que c'est quelque chose que je pense qu'on a un peu oublié aujourd'hui et qu'on redécouvre et qui frappe vraiment aujourd'hui quand on voit ces films, c'est que c'est quelqu'un qui a des idées de mise en scène tout le temps en fait. Et on est loin de cette expression assez terrible de théâtre filmé qui ne veut pas dire grand chose en soi d'ailleurs. Je voulais juste replacer 2-3 petits repères bibliographiques. Sacha Guitry, il est né en 1885 à Saint-Pétersbourg parce que son père est à ce moment-là en représentation, puisqu'il est donc le fils de Lucien Guitry, immense comédien, peut-être le plus grand comédien de son époque, égal masculin de sa partenaire régulière dans tous les sens du terme, Sarah Bernhardt. Donc Guitry, c'est quelqu'un qui naît dans le théâtre, qui va écrire très tôt pour le théâtre, qui a écrit plus de 120 pièces. Et qui au départ, même s'il tourne un premier film en 1915, est très 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 regarde d'un très mauvais œil le cinéma en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'il a fait effectivement un film. Alors je pense pas que ce soit en 1915 parce qu'en 1915 c'était en pleine Première Guerre mondiale, mais peut-être. Enfin, disons qu'il a tourné un film muet, mais qui est en fait un documentaire sur les grands hommes et les grandes femmes. En l'occurrence, plutôt les grands hommes de l'époque. Je crois que la seule femme, ça doit être Sarah Bernhardt. Parce que Guitry, dans un premier temps, ce qu'il voit dans, disons, le cinématographe, c'est la possibilité d'enregistrer des gens, des gestes qui vont disparaître. C'est-à-dire, c'est le côté, je dirais, archéologique du cinéma. C'est-à-dire que via son père, Guitry connaissait énormément de très grands artistes, des peintres impressionnistes, des grands comédiens, des grands avocats, voilà. Il sent que ces gens sont vieux, ils vont mourir, et il voit dans, disons, la technique cinématographique l'opportunité de les immortaliser dans ce film. Et donc, il y a un film qui s'appelle Ceux de chez nous. Je ne sais pas comment il a été exploité. En fait, il a été exploité ensuite à la télévision, je crois, avec un prologue que Guitry a enregistré dans les années 50. C'est un film magnifique, et puis c'est aussi un document vraiment considérable. On se demande pourquoi est-ce qu'il est le seul à avoir eu cette idée. Enfin, on se demande pas. C'est une idée de génie, donc voilà. Et puis ensuite, effectivement, ce qu'il n'aimait pas, c'était il considérait que, disons, la spontanéité, le côté en direct du théâtre allait se perdre au cinéma. Et puis à un moment donné, il s'est aperçu que c'était une grosse bêtise et que c'était pas du tout le cas. Et donc à ce moment-là, il est surtout devenu metteur en scène de cinéma. C'est-à-dire qu'à partir de 1935, il est très célèbre comme dramaturge, il joue encore, mais je pense qu'au moins la moitié de son temps et de ses textes, voire plus, ça va durer du cinéma. De toute façon, je crois qu'en 1936, il fait 4 ou 5 films. Il n'a pas beaucoup le temps, disons, de faire des nouvelles pièces, etc.
Oui, il faut préciser aussi que quand il tourne en 1937, Le mot de Cambronne, qui est un moyen de métrage qui fait 35, 36, 37 minutes, il le filme en une journée. Alors c'est une pièce qu'il avait déjà reprise, mais en tout cas il fait ses films extrêmement rapidement. Je crois aussi que c'est plus tard, il fera avec Fernandel un film en 5 jours. Donc c'est quand même assez impressionnant, il est très prolifique, parce qu'il écrit aussi bien pour les autres au début, puis beaucoup pour lui, pour ses films, mais aussi pour les pièces de théâtre. Il fait aussi un peu de peinture, il fait des textes, c'est un homme mondain qu'on voit beaucoup. C'est vrai que c'est un stakhanoviste du travail. Pour rebondir sur ce qu'on dit, peut-être écouter un extrait d'interview. C'est un autre cinéaste, c'est Francis Weber, qui nous parle de Sacha Guitry et plus précisément de son film Faisons un rêve.
Pour vous, quelles sont les qualités de ce film ?
Il y a d'abord une qualité qui me paraît prodigieuse d'interprétation. Alors évidemment, il faut l'écriture pour arriver à l'interprétation. Mais c'est la première fois que je vois une attente amoureuse qui dure pas loin d'une demi-heure, avec un seul personnage, j'allais dire en scène, parce qu'on reprochait trop à l'époque qu'il faisait du théâtre filmé, alors que c'est pas un reproche pour moi. Si c'est drôle sur l'écran, ben ça fait rire autant que si c'était dans une salle de théâtre. Et là, il est seul face à une caméra, qui est quand même, si vous voulez, le protagoniste ou l'antagoniste le plus abstrait qu'on puisse imaginer. Hein. Et là, il attend une femme, et il se balade devant la caméra, et il fait un numéro d'acteur au téléphone avec la dame des réclamations. C'est hallucinant de talent. Hallucinant de talent. Je ne vois pas un acteur à notre époque qui est capable de faire ce numéro.
Et ce qui signifie que pour vous, le film repose surtout sur le texte et le jeu des acteurs.
Bah, le texte, fatalement, parce qu'on a cru très longtemps qu'une fois Guitry mort, on ne pourrait plus le jouer. C'est faux. Le jeu des acteurs, et particulièrement celui de Guitry, est totalement impressionnant, au point même que Rému, qui était un vieux malin, s'est rendu compte qu'il fallait jouer sobre en face du soleil qui était Guitry. Il joue pas du tout comme à l'habitude. C'est pas « Marius, tu me fermes le cœur ». C'est un type qui joue petit en face de Guitry. Parce qu'il s'est dit « Si je joue comme ça petit, j'apparaîtrai. Si j'essaye de le concurrencer, je disparais. »
« Je viens vous trouver, vous qui êtes un ami, qui êtes un garçon. Mmh. Il faut faire l'impossible pour me sortir de cette histoire. »
« C'est moi que vous avez choisi. Oui. »
Tout à l'heure, je suis arrivé jusqu'à la porte de chez moi. Ah, j'ai mis la clé dans la serrure. Et puis tout doucement, je l'ai retiré et je suis sorti.
Alors nous venons d'entendre Francis Weber tout d'abord qui évoquait le fameux second acte de Faisons un rêve et qui parlait du jeu de l'acteur et du texte. Et ensuite donc un extrait de ce fameux second acte. Mais il y a peut-être quelque chose que Francis Weber ne souligne pas assez, si on peut se permettre, c'est vraiment le travail de mise en scène sur cette séquence-là en particulier et sur tous les films, les premiers films des années 30 de Sacha Guitry. C'est quelqu'un qui travaille l'ellipse, c'est quelqu'un qui travaille le montage alterné, qui fait des caméras subjectives, qui brise le quatrième mur dans son fameux deuxième acte de Faisons un rêve où effectivement Guitry est seul pendant près de 20 minutes et nous raconte ce qu'est en train de faire, ce qu'il imagine qu'est en train de faire sa maîtresse. Nicolas, vous avez peut-être quelque chose à nous en dire ?
Oui, c'est-à-dire que quand j'entendais l'extrait du film, je me disais, en fait, c'est pas terrible. Et en fait, c'est parce qu'il manque l'image. C'est-à-dire que ce qui est une preuve, je dirais, que en fait, c'est un metteur en scène et que c'est du cinéma. Et il manque le mouvement, il manque le visage de Guitry, il manque l'image, je sais pas comment dire, il manque l'appréhension de l'espace, le plaisir de se déplacer, de déplacer des objets, etc. Parce qu'effectivement, quand on l'entend, je voudrais que les gens qui nous écoutent ne prennent pas peur en entendant l'extrait. Je trouve que tout l'aspect un petit peu vieilli qu'il y a dans l'extrait sonore disparaît absolument. Quand on voit le film, j'ai revu le film il y a pas très longtemps. Effectivement, toute cette séquence qui est le deuxième acte de la pièce, c'est, je pense, un des sommets du cinéma mondial. C'est peut-être dans les 10 ou 20 plus grandes scènes jamais tournées. C'est quelque chose d'absolument prodigieux. Et effectivement, en termes de mise en scène, il y a énormément, disons, de décisions et d'inventions et d'inventivité technique pour arriver à ce résultat-là. Et le chef opérateur de Faisons un rêve, c'est un chef opérateur qui s'appelait Georges Benoît, qui était né en Espagne, je crois, et qui avait commencé sa carrière à Hollywood et qui avait été le chef opérateur des premiers films de Raoul Walsh, et qui ensuite était venu en France et a travaillé sur 4 ou 5 films de Sacha Guitry, Mon père avait raison, Faisons un rêve, Le mot de Cambronne notamment. Et on sent que dans cette scène, il y a avant tout des questions de cinéma, des réponses de cinéma, des inventions de cinéma, et même dans le jeu des comédiens. Bon, moi, j'ai rien contre le théâtre filmé ou contre cette. Je crois que René disait de toute façon le cinéma et le théâtre, c'est la même chose. Donc, mais par contre, là, quand même, la différence, et là où Guitry me semble génial, c'est que, en fait, dans un film comme Faisons un rêve, où il y a Guitry, bon, qui est un immense acteur, mais enfin, qui est surtout, je dirais, un showman, c'est-à-dire, je pense qu'il peut vraiment pas tout joué et il est absolument génial quand il joue ce qu'il écrit. Ensuite, il y a Rému, alors là, qui pour le coup, c'est l'inverse. C'est vraiment un des plus grands acteurs français des années 30, voire du siècle. Et puis, il y a Jacqueline de Lubac, qui a été actrice dans les films de son mari, mais enfin, qui a une carrière d'actrice qui a duré peut-être 6 ou 7 ans et qui n'est pas à proprement parler une comédienne et qu'on imagine mal chez Renoir, chez Grémillon ou chez Pagnol, mais qui en fait est dans le film de Sacha Guitry et dans les films de Sacha Guitry en général largement du niveau de Rému ou de Guitry. Donc quand on a une comédienne ou un comédien qui est pratiquement un comédien ou une comédienne amateur, qui se hisse au niveau de comédiens extraordinairement techniques, expérimentés comme Rému, à mon avis, c'est que là, il y a de la mise en scène et qu'il y a du cinéma. Parce que je pense que Jacqueline de Lubac, sur scène, elle devait être pas mal dans certains rôles, mais elle est vraiment inoubliable dans les films de Guitry. Et pour prendre la grande star française de ces années-là, qui est Danielle Darrieux, qui est vraiment la plus grande actrice française peut-être de tout le XXe siècle, au cinéma, j'entends, elle n'est pas moins bonne que Danielle Darrieux. Donc là, c'est que vraiment, il y a un rouleau compresseur de génie cinématographique là-dessus pour qu'en fait, tout le monde est génial quand Guitry le souhaite, en fait.
Et c'est aussi qu'on sent à l'écran la vraie complicité et l'amour, en tout cas, ou la relation qu'il y avait entre Jacqueline de Lubac et Guitry. Ça se sent là, dans des regards, dans des...
Ce qui est très frappant, là, vous avez raison, c'est que moi... Ce qui est exceptionnel dans les films de Guitry, mais ça va aussi dans les films de d'après-guerre, etc., c'est le sentiment d'intimité entre un homme et une femme, ou entre deux amis, qu'il réussit à montrer. Et moi, je trouve que, disons, ce sentiment d'intimité que peuvent avoir deux personnes, le seul moment du cinéma français où il y a ça, c'est dans la scène de À nos amours, où Piala et Sandrine Bonnaire discutent, et où Piala constate que Sandrine Bonnaire a perdu une fossette. Où là, il y a quelque chose de magique sur l'intimité entre un père et son fils. Guitry réussit ça. Alors là, par contre, il le réussit tout le temps et de manière magnifique. Et je ne sais pas si c'est de la complicité dans la vie, parce que je pense que Guitry et Jacqueline de Lubac en 1936, ils devaient pas très bien s'entendre, et je suis pas sûr qu'ils aient une intimité telle que nous on peut s'imaginer ce qu'est une intimité entre un mari et une femme. Mais par contre, en tout cas, cette intimité là, ce sentiment qui sont très proches de complicité, de tout comprendre en un regard, en un geste, effectivement, dans le cinéma de Guitry, c'est une de ses forces. Il y a quelque chose de la spontanéité des sentiments et de l'inclinaison qu'on peut avoir pour quelqu'un. Je pense qu'il est le plus fort pour ça. Alors là, pour le coup, de toute l'histoire du cinéma, il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville pour ça.
Alors, son autre film le plus connu de cette époque-là, c'est Le roman d'un tricheur, qui lui aussi innove d'une certaine manière, puisque tout le film quasiment se fait en voix off, qui raconte le déroulé de l'intrigue, enfin de l'histoire. Il est attablé à une terrasse de café et il écrit, et tout ce qu'on va voir à l'écran va être commenté par la voix off de Sacha Guitry. Jean-Fabrice, vous avez peut-être...
Non, pour prolonger un peu ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, moi ce qui me fascine chez Guitry, c'est vraiment, et c'est en rapport avec la grande question des années 30, qui est gérer la parole dans le cinéma parlant, donc c'est la vraie question, et c'est comment, alors que un cinéaste comme René Clair par exemple habille l'image en fait, de musique, de chansons, chez Guitry, la parole, le verbe fait vraiment corps avec la mise en scène et l'image. Du coup, si je peux me permettre l'expression, je dirais qu'avec lui, le verbe se fait chair cinématographique. Et du coup, dans le roman d'un tricheur, il y a ça, c'est-à-dire qu'on voit défiler à l'image un nombre incalculable d'idées de mise en scène avec cette voix off qui imprègne ces images-là et qui font corps. Et c'est ça tout le grand art de Guitry, ce qui peut expliquer qu'un cinéaste comme Orson Welles, par exemple, qu'on pourrait trouver très éloigné du cinéma de Guitry, le cite régulièrement dans ses interviews comme un des plus grands cinéastes qu'il ait le plus influencé, justement dans cette façon de mettre en scène le dialogue, lui qui plus tard adaptera les pièces de Shakespeare au cinéma.
On pourrait presque y voir dans Le roman d'un tricheur une espèce de dommage à ce cinéma muet qu'il a tant décrié à l'époque, et une espèce de palier entre un cinéma muet et donc l'arrivée de la parole au cinéma.
Sur Le roman d'un tricheur, c'est intéressant parce que techniquement c'est un film muet, en fait, effectivement, avec une voix off éblouissante. Mais ça veut dire aussi que Guitry n'est pas seulement le maître des dialogues, etc. Et d'ailleurs, à mon avis, il est évidemment, ses dialogues sont géniaux, mais enfin, c'est pas là où il est le plus puissant. C'est que c'est un génie du récit, en fait. Et que le roman d'Atricheur, c'est un récit génial qui dure pratiquement toute une vie. Et avec des rebondissements, des parenthèses. Enfin, il y a une virtuosité narrative de conteur dans le roman d'un tricheur qui est absolument fou. Et alors là, pour le coup, qu'on retrouve dans énormément de films de Guitry, parce qu'il y a quelque chose peut-être qu'on n'a pas assez souligné depuis le début de l'émission, c'est que Guitry a fait combien 35 ou 40 films. C'est-à-dire que
35 films. Oui.
35 films. C'est-à-dire que non seulement c'est génial, mais en plus il y en a beaucoup.
Et j'allais le préciser, voilà. Entre 35 et 39, il fait 12 films.
Voilà.
12 films en 4 ans, et c'est un peu son âge d'or d'ailleurs.
Enfin, et donc il y a certes des pièces filmées qui sont magnifiques, mais il y a aussi des récits extrêmement complexes, emberlificotés, extrêmement, enfin construits de manière extrêmement savante, mais en même temps, on n'a pas l'impression qu'ils sont construits. C'est-à-dire que le plus grand plaisir pour moi de Guitry n'est pas tant le plaisir du verbe, ou, je veux dire, c'est ni Romère ni Eustache quand même. C'est plutôt vraiment le plaisir du conteur. Et dans cette scène de Faisons un rêve dont on parlait tout à l'heure, où il décrit le parcours de la femme qui l'attend, en fait, il raconte une histoire. Donc il y a chez Guitry, à mon avis, avant tout, un génie de la mise en scène et aussi dans l'écriture un génie du récit.
Alors justement, une production très abondante. Sophie, comment vous avez fait pour sélectionner une douzaine de films qui sera à La Rochelle dans toute l'œuvre de Guitry? Est-ce qu'il y a eu une volonté de mettre de côté certains films parce qu'ils se répétaient avec d'autres, ou au contraire essayer d'en mettre certains ensemble parce qu'ils s'harmonisent bien?
Eh bien, c'était pas facile, croyez-moi. C'était pas facile. Au départ, on avait envisagé une rétrospective un peu moins importante en 7 ou 8 films, en se concentrant sur les films qui seront réédités cet automne et qui ont été restaurés, hein, par TF1 Studio, Gaumont, Jean-Fabrice en parlait. Et puis voilà, moi j'ai commencé, puisque j'ai vraiment découvert à l'occasion de cette rétrospective, donc j'ai visionné les films sur la plateforme de Gaumont, contrairement voilà à Jean-Fabrice ou Nicolas qui ont découvert les films en salle. Autre temps, moi j'ai découvert les films sur mon écran, et j'ai visionné, et puis ben, le problème c'est que plus je visionnais, plus j'avais envie de retenir les films. Donc voilà, on s'en est tenu à en effet 12 titres en comptant les deux courts-métrages, donc pour aller évidemment de 1915 avec ceux de chez nous dont Nicolas a parlé, jusqu'à La vie d'un honnête homme, qui est peut-être un peu moins connu, avec Michel Simon qu'il admirait beaucoup, 1952, en se consacrant évidemment à son âge d'or en effet des années 30, avec des titres voilà, à la fois les plus connus comme Faisons un rêve, Mon père avait raison, Le roman de tricheur, mais aussi Bonne chance, qui est peut-être un peu moins célèbre, moi qui est parmi mes favoris, qui avait été diffusé il y a quelques mois au cinéma de minuit, et j'avais vu là aussi sur les réseaux sociaux un post de Luc Lavacherie, qui est le responsable de la salle bleue à la Courtive à La Rochelle, qui disait « Ne manquez pas cette petite pépite », et en effet, c'est, comme on dirait aujourd'hui, une comédie romantique de 1h18, avec un rythme très enlevé, et comme disait Nicolas aussi, avec cet art du récit, et du récit amoureux de la séduction, qui est absolument exquis, et d'ailleurs c'est le film que Nicolas accompagnera à La Rochelle le 6 juillet. Donc voilà, c'était alors évidemment on n'a pas pu tout montrer, j'ai aussi proposé cette sélection à Jean-Fabrice bien sûr et à Nicolas qui l'ont validé évidemment en tenant compte du fait qu'on renonce évidemment à programmer, c'est renoncer, donc renoncer à ces films historiques, mais voilà, ajouter par exemple Deux bureaux que Nicolas m'a fait découvrir, auquel il tenait beaucoup, je crois, et il avait raison. voilà, donc ce sera 12 films. Donc c'est un tiers, en effet, de sa filmographie, mais ça donne une idée de l'importance de sa filmographie dans le cinéma.
Oui, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour contredire un peu ce qui a été dit. Je trouve les films de Guitry des années 30, évidemment, absolument éblouissants, mais je ne dirais pas qu'il a eu un âge d'or. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, Renoir indéniablement a eu un âge d'or, c'est-à-dire que Renoir, dans les années 30, c'est le plus gros cinéaste du monde, point. Mais Guitry n'a pas connu d'âge d'or. C'est-à-dire que Guitry fait des films tout aussi géniaux dans les années 40 et dans les années 50. Pour prendre, je sais pas, Assassin et voleur n'est pas moins bon que Mon père avait raison, par exemple, et pour prendre un film pour avoir à La Rochelle, dont on vient de parler, qui est La vie d'un honnête homme, il y a des gens qui considèrent que La vie d'un honnête homme est le plus grand film français du XXe siècle. Donc, et moi, je considère que De Bureau est un film absolument sublime, et c'est un film du début des années 50. Donc, Guitry, disons, il a une grande période parce qu'il était très connu, que son succès était très joyeux, et dans les années 30, effectivement, qui correspond aussi à l'époque où il était avec Jacqueline de Lubac, qui est une actrice très rayonnante, très, très, très rigolote. Enfin, voilà. Mais les films qu'il a fait avec Geneviève Guitry et les films qu'il a fait avec Lennart Marconi ne sont pas moins bons, selon moi.
Je vous rejoins tout à fait là-dessus. On parle d'un âge d'or de manière un peu caricaturale. C'est aussi le nombre de films qu'il réalise. Et je pense que c'est peut-être parce que justement entre les deux, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est la guerre et l'occupation. Où il réalise d'ailleurs un film que personnellement je trouve assez extraordinaire, peut-être son premier vrai mélo qui s'appelle « Donne-moi tes yeux », avec là aussi des séquences assez incroyables, et que justement l'occupation a terni l'image de Guitry, beaucoup.
Alors c'est un sujet très complexe. Disons que malheureusement, ce n'est pas l'occupation qui a détruit Guitry, c'est la libération en fait. C'est-à-dire que pendant l'occupation, en réalité, il se débrouille plutôt très bien. Il réussit à travailler, il fait des films, il joue, etc. Et effectivement, il y a comme une déflagration au moment de la libération où il y a un procès, où il est arrêté violemment, on lui file des baffes au commissariat alors que c'est quelqu'un qui est une star depuis qu'il a, je sais pas, 25 ans, qui habite dans un hôtel particulier, ça doit lui faire bizarre. Et puis surtout, il ne comprend pas du tout ce qu'on lui reproche. Je pense que d'une certaine manière, il est détruit. C'est plus du tout le même Guitry qu'avant. Et puis, il en éprouve surtout une rancœur immense envers ses contemporains et ses films qui étaient plutôt joyeux, avec, disons, un cynisme un peu fin, mais enfin, qui étaient des films plutôt de quelqu'un d'enthousiaste, aimant la vie, etc. Effectivement, les films qu'il fait après la guerre sont des films de misanthrope, ce sont des farces extrêmement noires, extrêmement pessimistes. C'est une autre période qui s'ouvre, c'est une période où lui, je pense, sombre plus ou moins dans une... pas dans la dépression parce qu'il est hyperactif, enfin disons il est plus du tout heureux, et puis il a des problèmes d'argent énormes, et très vite en fait sa santé se dégrade, et en fait ses 7 derniers films, il les réalise dans un état physique absolument déplorable.
On n'a pas évoqué la partie historique, en tout cas le goût de Guitry pour le film historique. On peut peut-être écouter un extrait du film Les Perles de la Couronne.
Ce visage d'enterrement que vous promenez dans tout lieu me contrarie énormément parce qu'il est contagieux. Sourcils français et grises mines ne m'ont jamais rien dit de bon. Vous êtes triste et pudibond. Vous prévoyez toujours la guerre ou la famine.
Mais ne vous en déplaise, sire. La prévoyance est une qualité.
Oui, mais en vérité, je ne suis pas certain qu'elle soit bien française.
Le peuple est malheureux.
Ne le lui dites pas. Pouvez-vous faire son bonheur?
Je le voudrais.
Qui ne le voudrait pas? Son bonheur, mon ami. Vous le lui promettez sur terre. Erreur profonde. Voyez la religion dont la façon de faire est, à mon sens, beaucoup plus sage que la vôtre. Car loin de nous offrir le bonheur en ce monde, elle nous le promet très prudemment dans l'autre.
Alors, donc, on vient d'entendre un extrait des Perles de la Couronne. Il y a effectivement, on le disait dans l'introduction, une vraie révérence pour l'histoire et pour l'histoire de France en particulier. Avec cette particularité, d'ailleurs, qu'à chaque fois qu'il va faire un film historique, il va le situer géographiquement. C'est forcément intimement lié. Si Versailles m'était compté, remontons les Champs-Élysées, si Paris m'était compté.
C'était quelqu'un qui n'était pas du tout scolaire. Et je pense que quand on parle d'histoire, il faut trouver une problématique. Alors aujourd'hui, on dirait qu'il faut écrire une note d'intention. Et ça, je pense que Guitry, une note d'intention, une problématique, il en est rigoureusement incapable parce qu'en fait, sa tête, c'est un peu comme du pop-corn. Il a des idées dans tous les sens. Il veut partir dans tous les sens. Son écriture, c'est vraiment des associations d'idées très libres. Donc, pour ne pas faire absolument n'importe quoi, effectivement, soit il s'attache à un lieu, soit il s'attache à un personnage. Sinon, il ferait un film de 12 heures. Donc, je pense effectivement, il préfère se centrer sur un lieu, histoire de circonscrire un tout petit peu ce qu'il a envie d'écrire, parce que la grande particularité de ces fantaisies historiques, qui ne sont pas les films qui ont la meilleure réputation de Guitry, mais qui ont quelque chose quand même qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il y a très très peu de cinéastes qui ont fait des films qui se passent sur plusieurs siècles. Et Guitry, très souvent, fait des films qui se passent sur une soirée, pratiquement en temps réel, puis il fait aussi des films qui se passent sur 1000 ans. quand même, il a une ambition de conteur absolument folle. Et que moi, je retrouve, alors, il se trouve, ça n'a rien à voir, que je viens de trouver en BD, par exemple, en manga, chez un type comme Osamu Tezuka, qui est le plus grand dessinateur de bande dessinée, qui fait aussi des récits comme ça sur 10 000 ans. Mais je veux dire, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a très peu de réalisateurs français, américains, japonais, enfin, tout ce qu'on veut, qui ont fait des films qui se passent comme ça sur 600, 700 ans, et puis avec un récit très libre autour de ça, avec des personnages qu'on peut voir pendant 3 secondes. Je veux dire, c'est vraiment l'anti-scénario à l'américaine, où il y a des enjeux, où le personnage doit traverser quelque chose, doit résoudre des problèmes, doit se retrouver lui-même. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le contraire du récit académique. C'est le récit de Guitry qui ne fonctionne, disons, qu'à son bon plaisir et à sa maîtrise innée de raconteur d'histoire.
Oui, d'ailleurs, en introduction de son dernier film, « Les trois font la paire », il a un monologue au téléphone et il précise... Tu sais bien que pour moi, un film, une pièce, un roman, c'est un point de départ ou bien un but choisi d'avance. Et je préfère les points de départ parce que l'on est maître des événements qui vont se produire jusqu'au moment où l'on en devient l'esclave.
Tarantino dit exactement la même chose. Tarantino, il dit qu'il écrit, il fait un plan pour la première partie de ses scénarios et qu'ensuite, c'est les personnages qui écrivent la deuxième partie du scénario.
Jean-Fabrice, petite question. Les films qu'on voit à La Rochelle, on les verra donc aux Acacias
Oui, alors, donc la première rétrospective donc, qui sortira le 1er novembre, il y aura donc les deux films de TF1 Studio qui sont Le Diable Boiteux et Le Comédien, et il y aura les films de Gaumont, ceux qui seront représentés à La Rochelle. Les seuls qu'on ne verra pas en tout cas sur la première rétrospective, c'est La Vie d'un Honnête Homme, et De Bureau, et Bonne Chance. Voilà. Mais tous les autres films seront présentés, sachant que dans notre idée, c'est que ce sera une première étape pour d'autres rétrospectives à venir. L'idée, c'est de commencer une nouvelle histoire avec les spectateurs et les cinéphiles autour de Guitry et que ça se perpétue les années suivantes avec d'autres films et d'autres restaurations. J'ai l'impression, vous savez, il y a quelques semaines est sorti le film de François Ozon, Mon Crime. Le succès du film me conforte dans l'idée qu'il y a une envie des spectateurs aussi de voir le plaisir du jeu. Enfin, un plaisir jouissif du jeu, de la représentation, d'en faire trop. Et voilà, et ce plaisir-là qu'on retrouve peu dans le cinéma en ce moment, et qu'on retrouve chez Guitry, qui renvoie aussi à ses fantaisies historiques, dans ce côté se déguiser, jouer à la fois, je pense que pour Guitry, jouer à la fois Talleyrand, Louis XV, voilà, il y a un plaisir immense. Alors, je dirais pas au travestissement, mais en tout cas à l'incarnation, sans être pour autant naturaliste.
Et l'envie, c'est de faire une intégrale.
Alors, peut-être pas, mais en tout cas de faire au moins 2 ou 3 rétrospectives sur les 5 ans à venir et de balayer le plus large possible en fait dans son œuvre, sachant que il y a encore beaucoup de grands films qui ne seront pas présentés dans cette première partie.
Sophie, on a parlé donc de cette rétrospective Guitry. Il y aura bien d'autres moments forts au Festival de La Rochelle. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, bien sûr. Juste pour revenir sur Guitry, ben là, ce sera voilà, le point de départ, en effet, ce sera La Rochelle. Et je suis très heureuse que les films soient réédités en salle à l'automne. C'est vraiment important pour nous de s'associer comme ça à des distributeurs de films de patrimoine qui font un travail vraiment formidable en salle. Et de créer un événement ensemble, en fait. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et c'est une œuvre, en tout cas pour les années 30, qui est extrêmement joyeuse. Il y aura vraiment un plaisir à La Rochelle. Je suis sûre que les salles seront pleines de spectateurs qui vont sans doute revoir avec plaisir les films, bien sûr, mais peut-être aussi réévaluer cette œuvre. Et surtout, l'idée, c'est de toucher aussi un public plus jeune, puisqu'on accueille beaucoup de jeunes au Festival de La Rochelle. Donc, ce sera l'occasion de leur faire découvrir ces films que nous aimons beaucoup. Donc, oui, il y a évidemment... Sacha Guitry, il aura quand même de la concurrence avec Bette Davis, une rétrospective Bette Davis en une dizaine de films, mais aussi des hommages à Lars von Trier, à l'intégralité du solo métrage, à Pierre Richard en sa présence, une journée consacrée à Nicole Kidman, du cinéma muet comme chaque année avec des créations ciné-concerts, un hommage aux cinéastes tunisiennes, dont Kauter Benania qui a réalisé Les filles d'Olfa qui était en compétition au Festival de Cannes. Le cineaste du Kazakhstan, Adilkhan Yerzhanov, et puis beaucoup de films en avant-première, donc des films justement de patrimoine réédité qu'on propose en avant-première, et beaucoup de films en avant-première, des films nouveaux, dans une section qu'on appelle ici ailleurs, et tout ça, ce sera dévoilé sur notre site dans quelques jours. Voilà, donc à peu près 200 films et 350 séances qui vous attendent au Festival de La Rochelle.
Et je rappelle que c'est du 30 juin au 9 juillet.
Alors vous évoquiez Bette Davis, justement, il y a quand même quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est du rapport de Sacha Guitry aux femmes, et peut-être de la mauvaise réputation qu'il traîne depuis de nombreuses années, et qui participe peut-être d'ailleurs au fait qu'aujourd'hui on n'évoquait plus trop Guitry, non ?
Oui, c'est une bonne question. Disons que, à un moment donné, je pense que un des produits d'appel de, disons, du magasin Guitry, c'était sa misogynie. Et que donc, les gens aimaient bien ça. Enfin, voilà. Et je pense que, effectivement, c'est quelque chose qui est problématique. Il faut pas se leurrer. Enfin, c'est pas une misogynie, disons, haineuse, mais c'est quelque chose qui est effectivement aujourd'hui très compliqué à entendre. Mais je dirais que dans ses œuvres, et notamment dans ses films, c'est pas un thème qui est prégnant. C'est plutôt, je pense, des gens qui, à un moment donné, il manquait d'argent, on lui a dit, tiens, tu vas faire un livre d'aphorismes sur les femmes. Voilà. Et donc, c'est plutôt des gens, des éditeurs qui ont fait des montages des meilleurs moments, des meilleurs saillies, Sacha Guitry sur les femmes. Mais en général, c'est un bon mot, c'est bon. Oui, bah, c'est comme Tintin, c'est comme plein d'œuvres du passé, Balzac, Shakespeare, enfin, dire, où il y a des choses qui sont aujourd'hui inacceptables et qu'il faut, il faut les écouter, en prendre compte, ne pas le sous-estimer, etc. Ensuite, sur son rapport avec les femmes, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit dans ces films, c'est très très significatif de l'état des rapports entre les hommes et les femmes dans les années 30, années 40, années 50. C'est-à-dire que c'est pas que lui, il n'est pas particulièrement misogyne, c'est vraiment à l'époque qu'il était atrocement, et en réalité dans tous les films et toutes les pièces et tous les romans, il y a un fond misogyne, que ce soit chez Simenon, chez... il y a un fond misogyne qui aujourd'hui est intolérable, mais je veux dire, je ne crois vraiment pas que ce soit davantage intolérable chez Guitry que chez d'autres. Simplement, voilà, à nouveau, on en a fait une forme de fond de commerce. Ensuite, je pense que les rapports entre Guitry et les femmes dans la vie, en fait, il n'y en avait pas, ou très peu. C'est-à-dire que les rapports entre les femmes, entre les hommes et les femmes chez Guitry, c'est quelque chose de très fantasmé, de très... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils sont très si significatifs des rapports hommes-femmes de ces années-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en fait, je pense, ne faisait que travailler. Qui très vite a épousé, je pense qu'à partir de Jacqueline de Lubac, il devait trouver une Madame Sacha Guitry pour travailler avec elle, pour la faire jouer sur scène et au cinéma. Et qu'en réalité, c'est quelqu'un qui vivait peu et qui avait une vie amoureuse très très atténuée, très 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 vite. Quoi. Donc, et d'ailleurs ça, je pense que si on devait faire une relecture moderne de l'œuvre de Guitry, ce serait de voir en quoi justement les rapports entre les hommes et les femmes chez Guitry, disons, sont une projection de quelqu'un qui n'a plus aucun rapport avec les femmes depuis très longtemps en réalité. C'est que c'est un travail qui reste à faire, qui n'a pas été fait. De voir en quoi, voilà, les rapports entre les femmes et Guitry sont totalement pertinents ou touchants, parce qu'en fait ils sont totalement faux. En tout cas, pas du tout incarnés, pas du tout vécus. Si on devait avoir une lecture moderne, disons, des rapports hommes-femmes chez Guitry, ce serait plutôt celui-là. Parce que si on veut trouver de la justesse psychologique ou des traits bien sentis, on n'en trouvera pas. Voilà.
En même temps, enfin, comme on a parlé de Faisons un rêve tout à l'heure beaucoup, si je prends juste l'exemple de ce film-là, que ce soit Rému ou Sacha Guitry dans leur personnage, en fait, ils jouent des rôles, enfin, ils croient à leurs mensonges. Quand pendant tout le film, on voit bien que Jacqueline de Lubac est le seul personnage qui est lucide, qui sait qu'on est en train de lui mentir. Et à la fin du film, on a les deux personnages masculins apparaissent plus comme un peu comme de gentils idiots ou de grands enfants, alors que Jacqueline de Lubac apparaît plutôt comme quelqu'un d'intelligent, de lucide. Et c'est-à-dire qu'on peut aussi le voir de cette manière-là.
Oui, on peut toujours le voir de cette manière-là. Mais enfin, disons, je pense qu'on montre ça à une jeune femme aujourd'hui de 20 ans. Elle trouve ça problématique.
Bah, Sophie, ouais, t'as pas 20 ans, mais Sophie, qu'est-ce que t'en penses de la misogynie?
Non, moi, je pense qu'en effet, les nouvelles générations, quand on voit tout ce qui se passe au niveau de la cancel culture, et voilà, dès qu'il y a un blackface dans un film aujourd'hui, le film peut être censuré par une nouvelle génération. Du coup, ça pose question. Donc, c'est pour ça qu'en tout cas, au Festival de La Rochelle, les films sont accompagnés pour, en effet, comme disait Nicolas, contextualiser. C'est aussi une autre époque, voilà, que certains ont oublié. Donc il faut accompagner les films, et il faut surtout pas, en tout cas, les censurer. Mais je trouve aussi qu'il y a de très très beaux personnages féminins dans les films de Sacha Guitry. C'est certain.
Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Merci Sophie Mirouz, donc je le rappelle, directrice générale déléguée du Festival de La Rochelle qui se tiendra donc à La Rochelle du 30 juin au 9 juillet prochain. Merci Nicolas Pariser, cinéaste, qui nous avait parlé de Guitry avec passion, que vous retrouverez à la Rochelle pour présenter une séance
de Bonne Chance.
Très bien. Et merci Jean-Fabrice Janodi, programmateur aux Acacias, également grand passionné de l'œuvre de Guitry. Merci Julien.
Merci à tous. Merci Sylvain.
Merci également à Marie et Antoine de Tsugi pour leur participation technique. Quittons-nous sur un extrait de générique de Guitry.
Le générique du roman d'un tricheur.
Ce film, je l'ai conçu et je l'ai réalisé moi-même. La musique en a été composée par mon ami Adolphe Borchard. Marguerite Moreno bavarde avec Jacqueline de Lubac. Elle fait semblant de lui montrer quelque chose, mais elles auront bien de la peine à nous faire croire qu'elles ne savaient pas qu'on les cinématographiait. Voici Roger Duchesne qui ouvre la porte à Rosine de Réan et à Elmire Vautier. Où est Serge Grave? Serge, où es-tu? Serge! Quoi? Rien, voilà, c'est tout. Ah, bon. Je me demande maintenant où peut se cacher Pauline Carton. Mais voici Fréhel qui cause avec l'abri. Pauline Carton, voulez-vous venir que je puisse vous remercier de m'avoir si bien secondé pendant que je réalisais ce film? Le chèque sans provision est une opération bancaire prévue au code d'instruction criminelle, et d'ailleurs c'est justice qu'il soit puni. Mais moi, voyez-vous, moi, je serais d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque, parfaitement. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire. Il n'en a pas le droit. Je vais vous faire encore un chèque de 100 000 francs.
Je remettais ma robe bleue.